Hello à tous, ici Gabriel Zanto et bienvenue dans un nouvel épisode de La French Touch. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, j'interview des personnalités du monde du produit et du design français. En effet, aujourd'hui, lorsqu'on parle de produit ou design, les références restent inlassablement les mêmes. Apple, Google, Intercom, Airbnb, Amazon, Spotify. Mais l'écosystème français est aujourd'hui suffisamment riche et diversifié pour que nous puissions nous aussi nous exprimer sur ces sujets en toute fierté. Mieux encore, certains de nos compatriotes ont des postes extrêmement intéressants et importants au sein justement de ces grandes entreprises. Alors pendant plus d'une heure, j'essaye de mieux comprendre leur parcours, leurs envies et leurs défis au quotidien. On parle également de problématiques très concrètes qu'ils rencontrent dans leurs entreprises. Ça peut être sur le branding, sur l'organisation des équipes ou tout autre sujet de leur quotidien. Mon objectif, c'est que vous découvriez une nouvelle personnalité, son parcours, ses conseils, et que vous puissiez vous les approprier pour vos propres projets, vos équipes ou tout simplement dans votre vie. Belle écoute à vous sur La French Touch. Bonjour Pierre.
Bonjour.
Et bienvenue sur la French Touch podcast.
Voilà, enchanté.
Alors, je suis particulièrement ravi de t'avoir sur le podcast. Je suis un grand fan de Citymapper. Ça fait plus de 2 ans que tu es lead designer chez Citymapper. Tu as fait beaucoup de freelance, je crois entre 6-9 ans, 9 ans quasiment, de freelance. Et tu as 3 grosses expériences marquantes sur lesquelles on va certainement revenir, donc dans 3 contextes qui sont totalement différents. Chez Burberry, pendant près de 4 ans en tant que lead UX designer. Dans le studio Native Design, où tu as été lead interaction designer et tu as notamment travaillé pour Ford sur un projet automobile. Et donc évidemment chez Citymapper, qui est une start-up d'un peu plus d'une 60aine de personnes aujourd'hui, c'est ça?
Ouais, tout à fait. Ouais.
La start-up a été créée en 2011 par Azmat Youssou, qui est un ancien salarié de chez Google. Vous êtes donc basé à Londres. Alors, Citymapper, c'est une application mobile qui a été récompensée de très nombreuses fois. Je crois qu'elle a été citée meilleure application de l'année chez Apple 2013, 2014, 2015, 2016. Sur le Play Store également. Enfin, voilà, c'est énorme. Et aussi, un ton unique, décalé, qui fait vraiment aussi partie de la marque et de l'originalité de Citymapper, si on doit vous comparer ou vous positionner face à des Google Maps ou face à d'autres acteurs. Pour commencer, justement, est-ce que c'est dur d'avoir un ton cool et décalé comme ça?
Ouais, c'est pas facile. En fait, instinctivement, quand tu écris la copie, les textes, c'est toujours assez basique, ou c'est jamais la solution finale. Il y a beaucoup de débats dans l'équipe, il y a beaucoup de discussions sur quel mot utiliser, est-ce que c'est clair, quand t'es dans tel contexte, quand il pleut et que ton téléphone a des gouttes d'eau et que t'as besoin d'aller vite, que t'es en train de marcher, est-ce que tu vas comprendre? Okay. Et il y a beaucoup de travail qui est fait sur le texte, sur les mots. Et donc, comme tu l'as dit, on est basé à Londres, donc beaucoup d'anglophones, mais il y a un effort qui est fait pour traduire et garder la valeur ajoutée, et si possible en ajouter encore de façon locale dans toutes les langues. Donc là, à Citymapper, il y a pas mal de Frenchies, et du coup, tu peux voir en utilisant l'app à Paris ou à Lyon que la traduction fait honneur au langage. En fait, j'ai dit Frenchie, mais aussi, en fait, j'aurais dû dire francophone, pour être plus exact. Et c'est une équipe très internationale avec des gens qui représentent toutes les villes dans lesquelles on opère et même plus, et qui, disons, une connaissance locale et en même temps une compréhension des enjeux techniques et une compréhension de la communication et du UX. Après, chacun, évidemment, selon ses compétences, a des facultés et des compétences plus pointues dans un domaine, mais vraiment, tous les employés et tous les membres de l'équipe sont sensibles à la communication, sont sensibles à la clarté, aussi bien au niveau interface qu'au niveau, communication et les mots qu'on utilise.
Produit et design, ça représente combien de personnes chez vous?
C'est une petite équipe. On est aux alentours d'une dizaine sur ces sujets-là. Okay. Donc, il y a, si tu veux, l'équipe est divisée en 3 grands pôles. Il y a product and design, il y a ce qu'on appelle une équipe qui s'appelle Cities, qui gère qui fait en sorte que chaque city soit vraiment basé sur les bonnes infos de transport, que ce soit pertinent chaque jour, que s'il y ait une ligne de bus qui soit fermée, voilà, tous ces événements doivent être gérés et impliqués, enfin comment dire, là doit être mis à jour le plus vite possible. Donc ça, il y a un côté live ops qui est super important, qui fait en sorte qu'on gagne la confiance des gens et on la garde. Voilà, au-delà du côté fun. Donc ça, c'est la deuxième équipe, l'équipe City. Et la troisième équipe, c'est une équipe d'ingénieurs. Donc back-end, comme tu peux l'imaginer, beaucoup, beaucoup de data à gérer,
ouais.
À corriger, à ajouter, disons, à créer nous-mêmes, à plugger, à monitorer, à tout ça. Je parle un peu en franglais, excusez-moi.
Ouais, mais pas de souci.
Et aussi, évidemment, du front-end, puisque l'app tourne sur le web et sur iOS et sur Android. Donc voilà, tout ça, faut que ça tourne. Donc disons que c'est les trois grands pôles.
Qu'est-ce qui t'a motivé à rejoindre l'équipe et à rejoindre CityMapper?
Alors, j'ai été un utilisateur pendant des années. J'ai découvert l'app en 2012, quand je suis arrivé à Londres. J'habitais à Paris, j'ai grandi en région parisienne et j'ai bougé à Londres en 2012, juste après les JO de 2012, pour les gens qui se souviennent. Et Londres, comparé à Paris, a une physionomie très différente. C'est une ville beaucoup plus vaste, c'est l'équivalent de Paris et sa banlieue. Et les transports ne fonctionnent pas toute la nuit. Maintenant, ils fonctionnent plus, quelques années plus tard. Et en tant que jeune expat qui sort le soir et qui essaye de s'orienter, c'était très difficile. Des petits exemples, les bus, tu vois, tu peux aller à l'arrêt de bus, disons le bus 247, sauf qu'il est dans deux directions et chacun des arrêts de bus a une lettre. Ça, c'est des choses que tu découvres sur le tas. Et c'est pas facile de s'orienter vraiment sur... Encore une fois, imagine Paris et sa banlieue. Tu vois, de trouver ton chemin avec des bus de nuit, très difficile. Et moi, j'aime beaucoup marcher. Le réflexe que j'ai à Paris, c'est j'aime beaucoup marcher quand je peux. Donc, je vais marcher l'équivalent de 4-5 stations. Ça me dérange pas du tout. Et à Londres, les stations sont beaucoup plus loin les unes des autres. Donc, s'orienter même, disons que se baser juste sur la marche à pied, très compliqué. Et du coup, j'ai installé toutes les apps de l'App Store qui m'aidaient à trouver mon chemin. Et il s'est avéré que la plupart, c'était soit juste le plan de métro dans une app, soit ça marchait pas, soit c'était compliqué, soit ça loadait pas. Bref, la sélection naturelle a fait que une seule app est restée sur mon téléphone, c'est CityMapper. Et depuis 2012, elle me ramène chez moi.
tous les jours.
Ouais, et dans toutes les villes où on opère, elle m'amène à destination.
Voilà. Okay.
C'était un processus de sélection naturelle. Et comme tu l'as souligné au début de notre conversation, le ton se distingue un petit peu. Vraiment très tôt dans CityMapper, il y avait déjà ces modes de transport un peu blagues. C'est-à-dire que tu vas avoir le bus, le métro, et puis tu vas avoir le hoverboard.
Ouais, c'est ça, la téléportation.
Exactement, la téléportation, on a la catapulte aussi. Donc, il ne s'affiche pas tout le temps, ouais. Mais il s'affiche régulièrement. Et quand il s'affiche, tu vois, tu es en train d'attendre ton bus et ce n'est pas spécialement le moment le plus excitant de ta journée. Ces petites blagues marchent. Et ça a marché sur moi aussi. Donc, c'est comme ça que j'ai découvert CityMapper.
Ouais.
Et après, pour répondre à la deuxième partie de ta question, pourquoi j'ai rejoint? Donc, j'ai rejoint en 2017, donc bien plus tard, hein, après 5 ans à Londres. Et à ce moment-là, j'avais jamais travaillé dans une start-up. Et je cherchais mes next steps. Et j'ai eu plusieurs propositions. Et CityMapper, c'était vraiment, le terrain le plus inconnu pour moi. Là où j'apprendrais le plus. Jamais travaillé dans une start-up. On reviendra peut-être sur mes expériences précédentes.
Ouais.
Et voilà, c'était vraiment l'expérience avec le plus d'inconnus parce que c'est un environnement très différent d'un Burberry, par exemple, qui a un business qui tourne depuis des années, avec des équipes beaucoup plus grosses. Ça n'a rien à voir avec un native design qui est une agence, en fait, un studio de design qui travaille, comme consultant ou comme provider de services. Là, t'es dans une équipe produit en interne, qui tourne sur, qui a de l'argent d'investisseurs. Donc, c'est vraiment une dynamique complètement différente au niveau de l'entreprise. Et à l'époque où j'ai rejoint CityMapper, Il y avait beaucoup d'expérimentation au niveau du bus aussi. Et ça m'intéressait beaucoup au moment où j'ai rejoint, puisque je sortais d'une expérience sur une voiture autonome et travaillais avec Citymapper, cette app que j'adorais, sur réinventer le bus. C'était un challenge irrésistible.
Cette expérience du bus, elle s'est soldée par un arrêt. Est-ce que c'est vous considérez comme un échec ou c'était juste un test and learn? Vous aviez fondé de gros espoirs. C'est quoi le retour d'expérience que tu peux en
Écoute,
faire?
c'est la définition du pivot en startup, hein. C'est-à-dire que pour expliquer le pivot, tu pars avec une idée, une hypothèse, et tu penses que ça va marcher, tu testes, tu apprends et tu évolues. Et c'est l'histoire de, disons, de la saga du bus chez Citymapper. Donc Citymapper qui a été créé en 2011,
11, ouais.
ça s'appelait Busmapper
Ouais.
d'ailleurs. C'était que pour les bus et puis c'est devenu Citymapper après. Et passé par plusieurs phases de business development et de, disons, de développement de produits pour trouver, pour tomber sur ses pieds et trouver un ou plusieurs business models qui tiennent la route. Et le bus faisait partie de ces expérimentations. Donc Citymapper a opéré ses propres bus pendant plusieurs années à Londres. D'abord des bus de nuit, puisque grâce disons, on a la visibilité sur les patterns de circulation dans la ville. Donc, on voit les zones qui sont où il y a beaucoup de demandes, mais qui sont pas assez desservies. Et ça, c'était le postulat de départ pour lancer des lignes de bus. Ensuite, assez rapidement, et ça, c'est un thème vraiment chez Citymapper, c'est évolué extrêmement vite. Après avoir lancé ces lignes de bus, ça fonctionne, mais on aimerait optimiser, on aimerait changer. Et avec TfL, qui est l'équivalent de la RATP à Londres, une fois que tu as ta ligne de bus, ça change plus. Elle va être là pour 20 ans, ta ligne de bus. Tu peux pas évoluer. Et du coup, si tu veux faire un itinéraire de transport partagé qui évolue en fonction de la demande, la seule solution légale, c'est de prendre une licence de taxi et d'avoir des véhicules qui contiennent moins de 8 personnes. Pardon, 8 personnes au maximum. Et c'était l'évolution suivante du bus. Et donc c'est comme ça que ça s'est transformé dans le produit qui s'est appelé Ride, Citymapper Ride. Et c'est à ce moment-là que j'ai rejoint en fait, pendant la genèse de ce produit, de ce service. Et j'ai travaillé sur l'application pour les chauffeurs, pour
Ok.
savoir où aller, qui prendre en charge, où les déposer, quand commencer à travailler, quand finir de travailler, etc. Et sur la formation de ces chauffeurs. Qui devait, tu vois, comme on l'a souligné, l'app Citymapper a un ton
Ouais.
particulier. Et du coup, quand tu te fais prendre en charge par un chauffeur Citymapper, tu as eu un peu une attente différente,
Tout à fait.
ou en tout cas une espérance différente qu'un chauffeur de taxi G7, par exemple. Et du coup, comment tu instilles ça dans les drivers? Du coup, pour ma part, c'était un projet vraiment passionnant. Et puis après, voilà, on est passé à d'autres projets qui faisaient plus de sens économiquement. Et c'est la définition de la start-up qui essaye, qui apprend, qui pivote, qui évolue. Et c'est exactement ce qui s'est passé.
Quelles sont les relations que vous avez à la RATP, puisque vous allez, enfin, travailler ensemble, vous êtes en compétition, comment vous positionnez par rapport à ça?
Ouais, bien sûr. Bah, la RATP, c'est l'un de nos. On est partenaire, si tu veux, puisque notre but commun, c'est de faire en sorte que les gens utilisent les transports en commun. C'est vraiment. Enfin, Citymapper, c'est une app qui est principalement utilisée par les gens qui utilisent les transports en commun. Si tu te déplaces principalement en voiture, tu n'utiliseras probablement pas Citymapper. Et là où nos objectifs se rejoignent complètement, c'est de faire en sorte que les gens arrivent à utiliser les transports en commun. C'est-à-dire que les Parisiens se sentent à l'aise de sortir du chemin qu'ils connaissent, notamment au moment où il y a des grèves, où disons, ta routine de transport ne fonctionne plus. Comment tu fais? Et là, il y a besoin d'apps comme Citymapper pour te donner confiance dans ta capacité à prendre ces bus que tu connais pas et à prendre ces lignes que tu n'as jamais prises. Donc, tu vois, il y a vraiment une synergie à ce niveau-là. Et après, effectivement, nous, On utilise beaucoup leur data et c'est très précieux pour nous. C'est un des matériaux fondamentaux pour que l'app fonctionne.
Est-ce qu'aujourd'hui vous pourriez vous passer de ces données-là? Est-ce que vous avez développé une infrastructure et une donnée suffisamment riche et fiable et surtout fournie par les utilisateurs?
C'est intéressant que tu mentionnes les données, disons, générées par les utilisateurs, puisque les utilisateurs nous aident sur la navigation dans une ville en nous envoyant un petit bouton reporter un problème, en nous disant, hey, il y a un bug à cet endroit-là de l'app, par exemple, ce bouton ne fonctionne pas, ou attention, cette ligne de bus, vous dites qu'elle fonctionne et elle ne fonctionne pas. Donc, disons qu'il y a vraiment du user-generated feedback. Et qui est tout est lu, absolument tout est lu. Mais on ne génère pas, disons, on ne change pas notre navigation en live en fonction de ce que les utilisateurs font. Tu vois, tu peux changer d'avis en milieu de ligne et aller prendre un croissant au milieu de ton chemin. On va pas dire aux autres utilisateurs, attention, cette ligne s'est arrêtée de fonctionner puisque Gabriel est sorti du métro. Là, c'est vraiment important de travailler en conjonction avec les opérateurs, puisque ce sont eux qui peuvent traquer la position de leur véhicule, que ce soit des bus, des métros. C'est vraiment eux qui font ce travail. Et c'était super intéressant pour Citymapper de développer ses propres lignes de bus, puisque pour la première fois, tu as le contrôle complet sur tout le data pipeline, c'est-à-dire la façon dont ta data est créée, la façon dont tu donnes tes estimations aux utilisateurs de dans combien de temps arrive le bus, etc., etc. Ça, tu peux ne le faire que si tu opères tes propres transports. Donc là, on est vraiment beaucoup plus sur une logique de partenariat et de collaboration.
Ok. Comment gérez-vous l'internationalisation d'un produit aussi local d'un point de vue design et produit?
Ben ça, c'est une excellente question et il y a un compliment caché dans la question. C'est-à-dire que il y a un effort qui est fait dans chaque ville pour que l'app qu'elle se sente à la maison. Que si tu l'ouvres à Vienne, si tu l'ouvres à Mexico, si tu l'ouvres à São Paulo, si tu l'ouvres à Singapour, que tu aies l'impression que ce soit une app locale faite par des gens locaux. Et ça, c'est un travail qui est fait, aussi bien au niveau des textes qu'au niveau des sources qui sont implémentées et des services qui sont implémentés. Et donc, il y a un effort qui est fait ville par ville pour que l'app se sente à la maison, sur le terrain. Et c'est la raison pour laquelle Citymapper opère dans 40 villes actuellement et pas dans 4000 villes, puisqu'il y a un travail qui est fait au moment où tu lances la ville pour faire en sorte que toutes les icônes, par exemple, soient adaptées, que tu puisses reconnaître les stops de bus sur la carte, que ce soit pas juste un pin générique, que tout soit personnalisé et adapté.
Tout est personnalisé, adapté, ouais. Et
Ouais, tout à fait, ouais.
c'est le travail de combien de temps en amont, ça? D'un point de vue pur produit design, ça me
Alors,
paraît.
ça, c'est une bonne question. Et ça va dépendre de la ville. Donc
Ouais.
là, il y a différents types de villes, ce qui est une autre facette de la réponse à la
Ouais.
question sur l'internationalisation. Il y a des villes avec assez peu de transports, des villes avec beaucoup de transports.
Ouais.
Il y a des villes avec très peu de densité et des villes avec beaucoup de densité, ce qui fait, en termes d'expérience de UX, c'est très, très différent. Si tu ouvres l'app en plein centre de Paris, tu regardes la carte et tu as des trottinettes et des scooters et des lignes de bus à foison. Tu vas dans le 95 au Plessis-Bouchard, et ben, tu auras une ligne de bus et un. Et tu vois, et du coup, ça, c'est vrai dans toutes les villes. Il y a des villes avec encore plus de densité et des villes avec un petit peu moins de densité, mais voilà, il y a ces aspects-là. Et il y a aussi la qualité de la data. Donc, il y a des villes avec des opérateurs qui sont super. Ils ont à fond sur donner de la data de qualité, être très clair dans la façon dont la data est collectée, ce que les choses veulent dire.
Qui
Et des
par
villes.
ouais qui par exemple donc tu dirais
Singapour, c'est un bon exemple,
OK.
par exemple. Ils ont, par exemple, on a accès à un petit exemple. Est-ce que le bus est bondé ou moyen ou il est vide? Enfin,
Ah ouais.
quasi vide, tu vois. Ce qui te donne une indication de est-ce que tu vas trouver un siège dans le prochain bus. ou est-ce que tu ferais mieux d'attendre le suivant? Tu vois, ça te permet vraiment de prendre tes décisions, tu es en contrôle. Tu n'es pas en train d'espérer que le prochain bus soit pas bondé parce que tu viens d'en laisser passer deux. Tu es vraiment en contrôle et tu peux gérer ton temps et ton... Voilà. Donc c'est un petit exemple. Et disons l'extrême inverse, Istanbul, au moment où elle a lancé, on a fait un blog post dessus où il y avait très peu de données live. C'est en fait, on part quasiment de PDF avec des tableaux d'horaires, comme tu vois affichés en poster dans les stations. Voilà. Et donc, tu vois, tu as vraiment des physionomies très, très différentes, géographiquement, au niveau des data, au niveau des modes de transport disponibles.
Et comment toi tu traites ça d'un point de vue design, tu vois, entre la densité est tellement faible, enfin comment tu traites cette information-là?
Alors ça, c'est l'un des challenges. Ça veut dire que sur des features qui vont toucher à toutes les villes, on doit vraiment faire attention à gérer tous les scénarios. Voilà. Donc en disant qu'on a des scénarios types de telle ville est vraiment l'exemple pour tel type de problème, telle ville est l'exemple pour l'inverse. Et du coup, c'est l'exercice qu'on fait en interne sur toutes les features qui touchent à toutes les villes, de s'assurer que ça fonctionne partout. Et c'est là que la connaissance locale de notre équipe Cities rentre vraiment en jeu, puisqu'ils sont capables de dire, voilà, écoute, moi, je gère trois villes, et là, sur cette ville-là, il y a un problème, ta feature, il faut modifier un petit peu, ou est-ce que tu as prévu ce type de rendu? Donc voilà, on a cette connaissance, et disons que l'autre aspect de la réponse, c'est on a une app staging. Donc on développe, on prototype énormément dans cette app en staging, ce qui nous permet de voir immédiatement comment ça rend localement. Voilà.
Ok, ouais, vous êtes sur des cycles de développement hyper courts, ce que tu
Ouais,
me dis
tout
là.
à fait. Ouais. Bah, en ce moment, si tu suis l'App Store, on release une fois par semaine. Donc c'est extrêmement court et véloce.
Ok,
Là, c'est
ok.
en ce moment. Hein,
Ouais.
je prédis pas que ça va durer éternellement, et on a été sur des cycles différents. C'est l'une des choses d'ailleurs qui définit Citymapper, c'est que ces choses-là, d'un point de vue organisationnel, évoluent beaucoup. Voilà.
C'est une bonne transition sur la question qui suivait, c'était comment faites-vous pour prioriser telle ou telle feature en fonction des marchés? Donc j'imagine des remontées des Team Cities et... Ok.
Ouais, tout à fait. Donc, bon, toutes les villes sont pas égales, évidemment, au niveau user base. Donc, il y a cet aspect-là. Il y a parfois des villes ont un focus particulier, puisque une ville peut être un exemple d'un problème qu'on essaye d'attaquer, et c'est la ville qui est la pire pour ce problème. Du coup, on va vraiment, disons, zoomer, double-cliquer sur la ville, et si on le règle pour cette ville, on le réglera pour toutes les autres. Donc voilà, c'est vraiment au cas par cas niveau feature, mais ce qui est sûr, c'est que les 40 villes sont prises en compte à chaque fois.
Ouais, c'est intéressant ce que tu dis là, ça se retranscrit sur. J'invite les auditeurs à aller regarder votre médium. Il y a peu d'articles, ce qui est bien, ce qui est assez rare. Généralement, c'est inondé d'articles. Mais chaque article amène sa touche. Et là, en l'occurrence, c'était typiquement quand on attaque un problème, on va aller là où c'est le plus complexe.
Ouais, tout à fait.
Fonctionnalité difficile, bah, on va les regarder à New York, à Londres et à Moscou, qui sont les trafics les plus denses. Et si ça marche là, on pense que ça marchera ailleurs. C'est un peu tu dirais que ça fait partie de la philosophie, de la boîte?
Bah, tout à fait. En fait, c'est une vraie tension. Comment tu designs pour 40 villes en même temps? Et c'est une approche qui fonctionne pour nous.
Ok, top. Justement, dans le choix des providers, quel est le parti pris pour afficher certains providers plutôt que d'autres?
Alors notre but, c'est d'afficher tout le monde.
Ok, il n'y a pas
C'est aussi
de...
simple que ça. Donc de la même façon qu'on calcule tous les bus pour te donner ton itinéraire, on veut calculer toutes les possibilités pour te donner les meilleurs.
Ok.
Après, il y a une question de est-ce que telle ou telle marque a, disons, est-ce qu'on peut l'intégrer? Est-ce que les data sont disponibles? Disons qu'il y a des aspects plus techniques, il y a des aspects de est-ce qu'on est en train de travailler dessus et que c'est dans le pipeline ou est-ce que c'est déjà fait? Voilà. Donc ça, disons que c'est des petits aspects qui expliquent pourquoi une marque en particulier pourrait ne pas être là, mais notre but, c'est d'intégrer tout le monde.
Ok. Il n'y a jamais eu de logique, j'y pense là, maintenant que tu m'en parles, d'espèces de liens sponsorisés, de moyens de transport, enfin faire du biz là-dessus, de mettre en avant tel provider
à la fois sur des critères rationnels qui seraient c'est le temps le plus court et tout ça, mais il y a une contrepartie financière pour vous à l'afficher dans les recos, dans les suggestions en fait.
Ce qui est très important pour Citymapper, c'est que les suggestions soient crédibles. Donc, si on te propose un provider sponsorisé qui ne correspond pas à ton trajet ou qui est beaucoup plus long ou beaucoup plus cher,
Oui,
ou voilà,
évidemment.
ça fonctionne pas. Donc, il peut y avoir des logiques de, disons, d'affiliation. Après, ce qui est vraiment le plus important, c'est que la comparaison fonctionne. Voilà. Et c'est la chose sur laquelle il n'y a aucun compromis qui est fait.
Comment vous mesurez la qualité du service que vous proposez? Alors j'entends UX Research, test utilisateur, les feedbacks, tu en as parlé un peu tout à l'heure, que vous lisez tout. Comment vous arrivez à qualifier un peu ça?
Ouais, alors il y a déjà un feedback constant. Donc il y a des boutons reportez-nous des problèmes sur toutes les pages. Et les gens les utilisent et on lit tout et on répond à certains. On répond pas à tout, mais on lit tout. C'est-à-dire que, alors ça va dépendre de ce que tu reportes. Si tu nous dis, écoute, je suis à New York et le bus 72, il est en travaux et votre app n'a pas encore mis ça à jour. Alors ça, c'est la personne qui gère New York qui va dire, ah bah, qui va checker, comme un journaliste checkerait une info qui vient. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce qu'on a reçu beaucoup de reports ou pas? Donc il y a des choses qui vont vers l'équipe City. Après, si c'est une question de fonctionnalité produit, par exemple, vous avez changé quelque chose, j'arrive pas à trouver tel bouton que je trouvais super utile, là, ça viendra plus vers l'équipe produit. Et du coup, chaque personne qui travaille sur le produit, ça fait partie de ses responsabilités de monitorer tout ce qui vient des utilisateurs et d'en prendre en compte quand vient le moment de designer des features ou de corriger. Ou un moment où on est vraiment en mode microscope là-dessus, c'est quand on lance des nouvelles choses. Et là, tout le monde est au courant et on monitore et toutes ces infos-là tournent. Donc vraiment, en fait, historiquement, je ne sais pas comment cette culture a été créée, au niveau comment on a encouragé les utilisateurs à feedback comme ça. Et je ne sais pas si c'est le cas sur d'autres apps. Mais l'utilisateur de Citymapper est vocal et encourage et se plaint à niveau égo. Voilà. Donc on prend les compliments et on prend les améliorations. Voilà, on prend tout.
Ok,
Donc
d'accord.
ça, c'est vraiment quelque chose qui marche super bien et que j'encouragerais tous les gens qui travaillent sur des produits digitaux à faire. C'est vraiment d'encourager le feedback, de le monitorer activement. Donc ça, c'est un des moyens de valider si ça fonctionne ou pas. En général, quand on lance quelque chose et que c'est silencieux, au niveau du report de problème, c'est une bonne chose. Quand on lance quelque chose et que sur les médias sociaux, il commence à y avoir quelques tweets, oh tiens, il y a ce truc-là, est-ce que c'est nouveau, est-ce que tu as vu, ou oh j'adore ceci, c'est aussi un bon signe, un bon signal. Donc disons qu'il y a la voix de l'utilisateur qui, disons, transpire par ces deux canaux. Et après, on fait aussi toutes les semaines de la recherche utilisateur, qui est un petit peu guérilla. C'est-à-dire qu'on va sur notre commute, sur notre trajet quotidien. On se réunit tous les mercredis matin, on arrive une demi-heure à l'avance et on a un focus. Donc, en début de semaine, on va dire, hey, on est en train de travailler sur telle fonctionnalité. Voilà, j'ai fait un petit prototype ou voilà, sur notre app staging, ça commence à ressembler à quelque chose. Hop, on prend tout ça et on va aller interroger les inconnus sur la plateforme du métro. Et on se retrouve pour le café le matin et on partage. Et on trouve des trucs, tu sais, comme toujours avec l'user testing, tu as toujours des surprises et voilà. Donc nous, on a la chance de travailler sur un produit de transport en commun. Du coup, ben, nos utilisateurs sont là.
Ah, c'est
Voilà.
canon.
Donc ça, c'est un autre moyen. Et après, la troisième chose, c'est les stats, évidemment.
Ouais,
On
les
regarde,
stats.
voilà, tu as changé quelque chose, est-ce que ça fait bouger l'aiguille d'un côté ou de l'autre? Voilà.
C'est très formalisé, ça. Genre, vous avez des KPI que vous définissez de, OK, il faut que ça, je sais pas, faut que ça augmente la rétention de tant de points, il faut que ça favorise l'engagement de
Ouais, je dirais high level sur les trucs importants. On veut être à tant d'utilisateurs sur le pass, par exemple, ou on veut être à. Voilà, c'est disons que c'est le genre de high level KPI. Après, on vient de lancer une fonctionnalité, on n'a pas un KPI sur le taux de conversion spécifiquement. Enfin, voilà, disons que c'est plus high level. Et après, je pense que l'équipe est trop petite pour avoir des KPI vraiment super granulaires sur des features super précises et que tu passes tellement d'un sujet à l'autre en fonction des priorités, de ce qui est important, de la suite, que ce qui est important, c'est disons, la big picture et est-ce que la progresse en général. Et si on a fait une connerie, on fait confiance aux utilisateurs pour nous le dire. Déjà, on fait confiance à nous-mêmes pour,
la
disons,
repérer. Ouais.
voilà, la repérer et avec tous les gros cerveaux dans l'équipe et les gens passionnés et les gens qui travaillent dur. Voilà, il y a déjà un bon filtre. Et puis, si vraiment il y a un truc qui nous est passé entre les doigts, on utilise le feedback des utilisateurs. Voilà.
Ok. Vous célébrez justement ces espèces de petites ou grandes victoires en interne. Vous avez est-ce qu'il y a une culture un peu de la du succès, de la célébration?
Il y a une culture, ouais, de célébration. Après, ce qui m'aperçoit, c'est une équipe qui travaille très dur
Back.
et qui est rarement satisfaite.
Ok. À partir de quand est-ce que tu sais que plus de fonctionnalités, c'est trop de fonctionnalités? Comment est-ce que vous assurez de rester simple face à l'explosion des mobilités?
Ouais, alors ça, c'est une excellente question.
Public sharp, public de la
Ouais,
French Touch est sharp.
bien joué pour cette question. Bah écoute, c'est une vraie question qui disons qu'on se pose tous les jours à Citymapper. Je pense que le succès de l'app a été développé sur un UX qui est très simple. Tu vois, il y a sur la page principale, il y a trois boutons. Il y a amène-moi quelque part, get me somewhere, get me home, get me to work. Et ça, c'est vraiment les trois boutons fondamentaux. Et c'est l'exemple d'un UX simple qui fonctionne pour tout le monde dans toutes les villes. Et ça, c'est vraiment des victoires et des petites pépites qui sont à préserver. Et du coup, tu veux pas rajouter un quatrième, un cinquième bouton, rentre avec un truc, rentre avec machin, rentre avec notre super sponsor. Il y a celui-là aussi qui nous a payé un peu moins, il est juste en dessous. Enfin, tu vois, tu faut respecter cette simplicité et la protéger. Après, comme le dit la question, on est sur une vague de nouvelles mobilités, nouveaux moyens de transport qui viennent de façon, disons, multipliée dans toutes les villes, mais aussi parfois on ne sait même pas trop comment les catégoriser. Je me souviens d'un service en particulier. On a eu le débat pendant 1 heure avec l'équipe. Est-ce que c'est une trottinette, un vélo ou un scooter? Et tout le monde avait une opinion différente. Et du coup, comment tu organises et standardises toute cette vague qui arrive pour faire en sorte que l'utilisateur qui est venu pour prendre son bus, disons, ne soit pas perdu, mais également ait l'opportunité de découvrir ces nouveaux moyens de transport qu'il n'aurait pas forcément essayé si juste il croise un vélo ou un scooter sur un trottoir dans la rue. Et du coup, disons qu'il y a vraiment les deux côtés de la mission. Il y a je veux garder la simplicité, aller droit au but, mais en même temps, ta ville change. Et on a besoin de te montrer les nouveaux services parce que peut-être que tu pourrais gagner 5 ou 10 minutes sur ton trajet de bus si tu prenais ce nouvel ovni qui vient d'arriver près de chez toi. Voilà, donc il y a vraiment un rôle de simplicité et de respecter ta routine, mais également, on croit aussi que c'est notre rôle de te proposer de nouvelles solutions quand elles sont meilleures.
Ok. C'est une excellente transition avec comment vous positionnez-vous par rapport à un Google Maps ou un Skipper. Je pense pas avoir jamais vu un screenshot de Google Maps partagé sur Twitter, tu vois. Non, mais bon,
C'est vrai,
plus
c'est vrai.
sérieusement, ouais, c'est un environnement concurrentiel de plus en plus fort.
Ouais, tout à fait. Ouais.
Alors, question un peu pour la gratter, est-ce qu'il y a encore une place pour un acteur qui ne propose que des itinéraires?
Oui, bien sûr, bien sûr. Bah, je pense que c'est la réalité, c'est que Citymapper trouve sa place sur l'écran de plusieurs millions d'utilisateurs, donc évidemment, il y a une place. La question, c'est comment ça se fait qu'il y a une place? Et je pense que la réponse, c'est qu'on est plus pointu que Google Maps, pour prendre l'exemple de Google Maps, sur beaucoup d'aspects du transport en commun.
Par exemple, tu
Et
penses à quoi?
ben, je pense à plein de petits détails, du style, quand je planifie mon itinéraire, Citymapper va me dire quelle est la meilleure entrée dans la station de métro. Donc pour les Parisiens, Châtelet, tu vois la différence entre l'entrée du côté Quai de Seine et l'entrée au nord, c'est quand même autre chose. Enfin, tu vois, on parle d'un kilomètre. Hein. S'il pleut, ça fait pas mal mouillé en un kilomètre. Donc voilà, c'est un exemple, meilleure entrée. Ensuite, on va te dire, on va être capable de calculer le temps de la correspondance. Donc combien de temps entre le moment où tu rentres et tu navigues et tu arrives au métro? Pour prendre un exemple parisien, tu rentres à l'entrée principale de Gare du Nord, là où il y a les grandes lignes, et tu veux prendre la ligne 2 à La Chapelle, bah tu marches 10 minutes. Et ça a un impact sur ton temps de trajet. Donc ça, c'est pris en compte aussi. Ensuite, on va dire, oh, c'est mieux de monter à l'avant ou à l'arrière de la rame en fonction de ta correspondance.
Toutes ces
Donc on va
fonctionnalités.
recalculer la correspondance, on va dire quelle est la meilleure sortie. Donc voilà, ça c'est des exemples de choses qu'on passe du temps à faire et qui différencient et qui font que les utilisateurs continuent à utiliser l'application puisqu'elle les guide vraiment de A à Z et qu'il y a un effort spécifique et particulier qui a été fait pour faire en sorte que ça fonctionne. Tu vois, pour avoir ça. Il y a besoin que quelqu'un passe du temps dans la station et comprenne tous ses trajets.
Non, mais c'est ça, c'est ça, c'est exactement ça. Enfin, moi, je sais que la première fois que j'ai utilisé Citymapper, c'est ça qui m'avait le plus marqué, entre guillemets, même choqué, de comment ils savent qu'il faut sortir, qu'il faut être en tête de rame pour pouvoir prendre la sortie et gagner un peu de temps, quoi.
Ah bah écoute, là, t'as affaire à des geeks qui ont des masters et des PhD qui sont obsédés par le transport en public
C'est
et
vrai, ouais.
Tu les laisses en liberté dans 40 villes.
Vous avez des product managers ou pas? Ou
Oui,
comment? Ouais.
assez peu. C'est une évolution qui a été nouvelle pendant mon temps à Citymapper. Quand je suis arrivé, il y en avait pareil. Maintenant, il y en a plusieurs.
Ok, donc c'est surtout product designer qui fait le gros du taf alors, avec le back, le front et la personne des villes, c'est ça.
Voilà, ouais, c'est ça. Et,
Ok.
mais product manager, il y en a. Hein. Ma réponse, c'est qu'il y en a et ils sont aussi très actifs et très impliqués. Comme les fonctionnalités sont parfois touchent parfois 40 villes et les systèmes peuvent être assez complexes, c'est pas mal d'avoir, disons, du renfort en coordination pour comprendre les problèmes, pour simplifier un petit peu. Disons, parcourir un petit peu disons, battre le terrain un petit peu avant que le designer arrive et visualise ou prototype. Pas mal.
Question plus légère, mais qui nous intéresse aussi, c'est quelle réflexion est menée en interne autour des Easter eggs qu'il y a dans l'app un peu partout? Est-ce que les UX se sont impliqués?
Écoute, alors oui, mais c'est en fait, c'est des projets assez spontanés.
Ouais.
C'est des projets qui ajoutent de la valeur à l'app, parce que personne d'autre peut le faire, en fait. Tu vois, tout le monde est très sérieux. Et tout le monde essaye de faire en sorte que leur app fonctionne dans ce milieu fragmenté et cassé qui est le transport, et encore plus le transport en commun. Et ajouter un petit peu de fantaisie là-dedans, ça fait du bien. Après, je me souviens de Azmat qui disait que les meilleures blagues sont les plus simples. En fait, l'histoire de la première blague, et ça, je me souviens encore de Azmat qui nous en parlait, mais apparemment, la toute première version de Citymapper, sur l'écran où tu compares les résultats, donc il y avait les bus, les métros, une ou deux autres modes, et il y avait un trou en bas de l'écran. Et ça lui convenait pas. Et il fallait mettre autre chose et tout. Et le développeur avait fini, disons, ils avaient un jour de gap avant de soumettre l'app à l'App Store. Et ils ont trouvé l'idée de mettre un hélicoptère. Ce qui est marrant, puisque aujourd'hui, quasiment 10 ans plus tard, à New York, tu peux prendre un hélicoptère, un vrai. Et à Monaco aussi, d'ailleurs.
Ah
Donc, on a
ouais.
un vrai mode hélicoptère à Monaco qui t'amène à l'aéroport de
Non,
Nice.
c'est ouf. Ouais.
Mais à l'époque, c'était la première blague, puisque bah, il manquait quelque chose, l'écran n'allait pas comme ça, et du coup, l'hélicoptère à la vie.
Génial.
Donc, en fait, dès la genèse de l'application, il y avait déjà un petit côté inattendu. Voilà.
Ok, porté du coup quand même pas mal par le fondateur alors.
Ouais, tout à fait, tout à fait. En fait, Azmat a une vision du marketing qui est assez particulière. City Mapper n'a jamais dépensé en marketing. Et passer un petit peu de temps à poser ces petites surprises ici et là contribue au marketing. Disons que tu investis des ressources, puisqu'il faut les faire, ces petites blagues, mais au final, c'est pas très compliqué. Et elles payent 10 fois le prix que tu as investi, puisqu'elles font sourire les gens. Tu vois, ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'utiliser le produit. Parfois même, tu retrouves un petit screenshot sur Twitter ou un petit truc comme ça. Et tout ça, c'est du marketing qui revient. Voilà.